Rachel. Jeudi 15 août 2013. Matin. Cathy m'a dégoté un entretien d'embauche. Une de ses amies vient de monter sa boîte de relations publiques et elle a besoin d'une assistante. Concrètement, c'est un boulot de secrétaire avec un titre ronflant et la paie est minable. Mais ça m'est égal. Cette femme a accepté de me recevoir sans recommandation. Cathy lui a raconté que j'avais fait une dépression nerveuse mais que tout allait mieux maintenant. L'entretien aura lieu demain après-midi, chez elle. Elle tient son entreprise dans un bureau de jardin qu'elle a fait installer derrière sa maison. Et il se trouve qu'elle habite à Whitney. J'étais censée passer la journée à peaufiner mon CV et à répéter. C'est ce qui était prévu. Sauf que Scott m'a téléphoné.
J'espérais pouvoir discuter,
a-t-il commencé. Nous n'avons pas... Je veux dire, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était... Nous savons tous les deux que c'était une erreur.
Je sais,
a-t-il dit. Il avait l'air tellement triste. Pas comme le Scott furieux de mes cauchemars. Plutôt comme le Scott brisé qui s'était assis sur mon lit et m'avait parlé de son enfant mort.
Mais j'ai vraiment envie de te parler.
Bien sûr, ai-je dit. Bien sûr qu'on peut discuter.
En personne?
Oh! Retourner dans cette maison était la dernière chose dont j'avais envie. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible aujourd'hui.
S'il te plaît, Rachel, c'est important.
Il semblait désespéré, et malgré moi, il me faisait de la peine. J'essayais de trouver une excuse quand il a répété
« S'il te plaît ».
Alors j'ai dit oui, et je l'ai regretté dès l'instant où le mot a franchi mes lèvres. Il y a eu un article sur l'enfant de Meghan dans les journaux, son premier enfant, celle qui est morte. Enfin, c'était au sujet du père en réalité. Ils l'ont retrouvé. Il s'appelait Craig McKenzie, et il est décédé il y a 4 ans d'une overdose d'héroïne en Espagne, ce qui l'exclut de la liste. De toute manière, ça ne m'a jamais semblé une piste très crédible. Si quelqu'un avait voulu la punir pour ce qu'elle a fait à cette époque, cette personne l'aurait fait il y a des années déjà. Alors, qui cela nous laisse-t-il? Toujours les mêmes. Le mari, l'amant. Scott, Kamal. Ou alors un homme venu de nulle part, qu'il aurait enlevé en pleine rue, un tueur en série en début de carrière. Est-ce que Meghan n'était que la première d'une série? Et puis, après tout, qui nous dit que l'assassin est forcément un homme? Meghan Hipwell n'était pas bien grande. Menue, un petit oiseau. On n'aurait pas eu besoin de beaucoup de force pour la maîtriser. Après-midi. La première chose que je remarque lorsqu'il ouvre la porte, c'est l'odeur. La sueur et la bière. Un mélange aigre, nauséabond, et en dessous, quelque chose de pire. Une odeur de moisi. Il porte un pantalon de jogging et un t-shirt gris tout taché. Il a les cheveux gras et la peau luisante, comme s'il avait de la fièvre. « Ça va ?» je lui demande. Il me sourit. Il a bu. « Oui, entre, entre. » Je n'en ai aucune envie, mais je m'exécute. Les rideaux des fenêtres côté rue sont fermés et cela plonge le salon dans une pénombre rougeâtre qui va avec la chaleur et l'odeur. Scott se traîne jusqu'à la cuisine, ouvre le frigo et en sort une bière. « Viens t'asseoir, » dit-il. « Bois un coup. » Il a un sourire figé, sans joie, macabre. Il y a une touche de cruauté dans son visage. Le mépris que j'y ai vu samedi, après que nous avons couché ensemble, ce mépris est toujours là. « Je ne peux pas rester longtemps, » dis-je. « J'ai un entretien d'embauche demain. Il faut que je me prépare. »« Ah ouais ?» Il lève un sourcil, puis s'assoit et pousse une chaise vers moi d'un coup de pied. « Assois-toi et bois un coup. » C'est un ordre, pas une invitation. Je m'assois en face de lui et il fait glisser la bouteille de bière devant moi. J'en prends une gorgée. Dehors, j'entends des cris, des enfants qui jouent dans un jardin et plus loin, le roulement familier du train. Ils ont eu les résultats des tests ADN, m'annonce Scott. L'inspectrice Riley est venue me voir hier soir. Il attend ma réponse, mais j'ai trop peur de ne pas dire ce qu'il faut, alors je garde le silence.
Ce n'est pas le mien. Ce n'était pas le mien. Mais le plus drôle, c'est que ce n'était pas celui de Kamal non plus.
Il rit.
Alors elle se tapait un troisième type. Tu y crois? Il a encore cet horrible sourire.
Tu ne savais pas vrai? Pour cet autre gars. Elle ne t'a pas fait de confidence au sujet d'un autre homme, si?
Le sourire s'évanouit peu à peu et je commence à avoir un mauvais pressentiment. Un très mauvais pressentiment. Je me lève et fais un pas vers la porte, mais il se tient déjà devant moi. Il m'attrape les bras et il me force à me rasseoir.
Reste assise.
Il m'arrache mon sac à main de l'épaule et le jette dans un coin de la pièce.
Scott, je ne sais pas ce qui se passe.
Mais enfin, crie-t-il penché sur moi. Si Meghan et toi, vous étiez d'aussi bonnes amies, tu devais tout savoir sur ses amants.
Il sait. Et tandis que j'en prends enfin conscience, ça doit se voir sur mon visage car il approche le sien plus près encore. Et je sens son haleine rance sur moi quand il ajoute.
Allez Rachel, dis-moi tout.
Je secoue la tête et sa main part brusquement sur le côté et va frapper la bouteille de bière devant moi. Elle tombe, roule jusqu'au bord de la table et explose sur le carrelage.
Tu ne l'as jamais vu de ta vie, hurle-t-il. Tout ce que tu m'as raconté, c'était des mensonges.
La tête rentrée dans les épaules, je me lève en marmonnant.
Je suis désolée.
Je tente de faire le tour de la table pour reprendre mon sac à main, mon téléphone, mais il m'agrippe à nouveau le bras.
Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est quoi ton problème?
Il me regarde, ses yeux braqués sur les miens, et je suis terrifiée. Mais en même temps, je sais que ces questions sont justifiées. Je lui dois une explication. Alors, je n'essaye pas d'enlever mon bras. Je laisse ses doigts s'enfoncer dans ma chair et je m'efforce de parler clairement et calmement. Je me retiens de pleurer. Je tâche de ne pas paniquer.
Je voulais que tu saches, pour Kamal. Je les ai vus ensemble, comme je te l'ai dit, mais tu ne m'aurais pas prise au sérieux si je n'avais été qu'une fille dans le train. J'avais besoin...
Besoin ?
Il me lâche et se détourne.
Tu dis que tu avais besoin.
Sa voix s'est adoucie, il se calme peu à peu. Je respire profondément pour ralentir les battements de mon cœur.
Je voulais t'aider, je reprends. La police soupçonne toujours le mari, et je voulais que tu saches. Que tu saches qu'il y avait quelqu'un d'autre.
Alors tu as inventé une histoire comme quoi tu connaissais ma femme? Tu te rends compte que c'est dingue ton truc?
Oui.
Je vais dans la cuisine prendre un torchon sur le plan de travail, puis je me penche pour nettoyer la bière renversée. Scott s'assoit, les coudes posés sur les genoux, la tête baissée.
Ce n'était pas la femme que je pensais connaître, dit-il. Je n'ai pas la moindre idée de qui elle était.
J'essore le torchon au-dessus de l'évier et je laisse couler de l'eau froide sur mes mains. Mon sac à main n'est pas bien loin, au coin de la pièce. Je fais un mouvement vers lui, mais Scott lève les yeux et je m'immobilise. Je reste là, dos au plan de travail dont j'agrippe le bord. J'ai besoin de sa stabilité, de réconfort.
C'est l'inspectrice Riley qui me l'a dit, reprend-il. Elle me posait des questions sur toi. Elle voulait savoir si on avait une liaison.
Il rit.
Une liaison? Et puis quoi encore? Je lui ai répondu, vous avez vu à quoi ressemblait ma femme? Qui tomberait si bas aussi vite?
Mon visage me brûle et de la sueur froide s'accumule sous mes aisselles et en bas de mon dos.
Apparemment, Anna s'est plainte. Elle t'a vu traîner dans les parages. C'est comme ça qu'ils ont su. Je leur ai dit, ce n'est pas une liaison, c'est une amie de Meghan, elle m'aide.
Il rit à nouveau, doucement, un rire sans joie.
Et elle m'a dit, elle ne connaît pas Meghan. Ce n'est qu'une petite menteuse, une femme qui n'a pas de vie.
Son sourire s'est évanoui.
Vous n'êtes que des menteuses, tout autant que vous êtes.
Mon téléphone émet un bip. Je fais un pas vers mon sac à main, mais Scott me devance et l'attrape.
Une minute, on n'a pas encore fini.
Il vide le contenu de mon sac sur la table. Téléphone, portefeuille, clé rouge à lèvres, tampon, reçu de carte bancaire.
Je veux savoir précisément sur quoi tu m'as raconté des conneries.
Il prend mon portable pour examiner l'écran, puis lève les yeux vers moi, l'air glacial. Il lit à voix haute.
Ceci est un message de confirmation de votre rendez-vous avec le docteur Abdik, lundi 19 août à 16h30. Si vous ne pouvez pas vous présenter à ce rendez-vous, merci de nous en avertir au plus tard 24 heures à l'avance.
Scott,
mais qu'est-ce que c'est que ça?
demande-t-il d'une voix éraillée à peine audible.
« Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as raconté ?»«
Je n'ai rien raconté du tout. » Il laisse tomber le téléphone sur la table et fonce sur moi, les poings serrés. Je recule jusqu'à un coin de la pièce et je me tasse entre le mur et la porte vitrée. « Je voulais découvrir. Je voulais t'aider. »
Il lève une main et je me recroqueville, la tête rentrée dans les épaules. J'attends qu'arrive la douleur. Et à ce moment, je sais que j'ai déjà fait cela auparavant, que j'ai déjà ressenti tout cela. Mais je ne me souviens pas quand, et je n'ai pas le temps d'y réfléchir parce que, même s'il ne m'a pas frappé, il m'a mis ses mains sur les épaules et il m'agrippe fort. Ses pouces appuient sur ma poitrine et j'ai tellement mal que je pousse un cri.
« Tout ce temps, » dit-il, les dents serrées. « Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu étais de mon côté alors que tu travaillais contre moi. Tu lui as donné des informations, c'est ça ? Tu lui as raconté des trucs sur moi, sur Megs ? C'était toi qui voulais que la police s'en prenne à moi. C'était toi !
Non, je t'en prie, non ! C'est faux, je voulais t'aider !»
Sa main droite remonte jusqu'à ma nuque. Il attrape mes cheveux et tire.
« Scott, je t'en prie, non, s'il te plaît, tu me fais mal, je t'en prie !»
Il me traîne vers la porte d'entrée. Une vague de soulagement m'envahit. Il va me jeter dehors, Dieu merci. Sauf qu'il ne me jette pas dehors. Il continue de me traîner derrière lui en me crachant des insultes. Il m'emmène à l'étage et j'essaye de résister, mais il est trop fort et je n'y arrive pas. Je pleure.
« Je t'en prie, non, je t'en prie !»
Je sais qu'il va m'arriver quelque chose de terrible. Je veux hurler, mais impossible, ça ne vient pas. Je suis aveuglée par les larmes et la terreur. Il me pousse violemment dans une pièce et claque la porte derrière moi. J'entends la clé tourner dans la serrure. Une bile tiède remonte dans ma gorge et je vomis sur la moquette. J'attends, j'écoute. Il ne se passe rien et personne ne vient. Je suis dans la chambre d'amis. Dans ma maison, c'était le bureau de Tom. Maintenant, c'est la chambre du bébé, la pièce avec les rideaux roses pâles. Ici, c'est un cagibi rempli de paperasse et de dossiers, avec un tapis de course pliable et un vieil ordinateur Apple. Il y a un carton plein de papiers recouverts de chiffres, de la comptabilité peut-être pour l'entreprise de Scott. Et un autre avec des piles de cartes postales vierges, avec des restes de pâte à fixe au dos, comme si elles avaient été affichées sur un mur. Les toits de Paris, des enfants qui font du skateboard dans une petite rue, des traverses de chemins de fer recouvertes de mousse, une vue sur la mer depuis l'intérieur d'une grotte. Je me plonge dans l'examen des cartes postales. Je ne sais pas pourquoi, ni ce que je cherche. J'essaye simplement de ne pas me laisser envahir par la panique. J'essaye de ne pas penser au reportage montrant le corps de Megan qu'on extirpait de la boue. J'essaye de ne pas penser à ses blessures, à la frayeur qu'elle a dû ressentir quand elle a compris ce qui allait lui arriver. Je fouille dans le carton et soudain, quelque chose me mord le doigt et je bascule en arrière sur mes talons avec un petit cri. J'ai une coupure bien nette au bout de mon index et du sang coule sur mon jean. J'arrête le saignement avec le bas de mon t-shirt, puis je me remets à fouiller plus attentivement. Je repère immédiatement le coupable. Il y a là une photo dans un cadre cassé et un morceau de verre manquant tout en haut où mon sang est étalé. Je n'ai jamais vu cette photo auparavant. C'est une photo de Megan et Scott ensemble, leur visage près de l'objectif. Elle rit et il la regarde avec adoration. À moins que ce ne soit de la jalousie, le verre est brisé en étoiles depuis le coin de l'œil de Scott, alors j'ai du mal à interpréter son expression. Je reste assise par terre avec la photo devant moi et je pense à ces objets qu'on casse régulièrement et que, parfois, on ne trouve pas le temps de réparer. Je pense à toutes les assiettes qui ont été brisées lors de mes disputes avec Tom, à ce trou dans le plâtre du couloir au premier étage. Quelque part, derrière la porte, j'entends le rire de Scott, et mon corps entier se glace. Je me relève tant bien que mal pour me précipiter à la fenêtre. Je l'ouvre, je me penche à l'extérieur, et mes doigts de pied touchant à peine le sol, j'appelle à l'aide. J'appelle Tom. C'est sans espoir, pathétique. Même si, par chance, il se trouvait dans son jardin, quelques maisons plus loin, il ne m'entendrait pas, c'est trop loin. Je jette un coup d'œil en bas et je suis prise de vertige, alors je rentre, l'estomac retourné, des sanglots dans la gorge.
« S'il te plaît, Scott !»
je crie.
« Je t'en prie !»
Je déteste le son de ma voix, son ton enjôleur,
désespéré. Mais un coup d'œil à mon t-shirt couvert de sang me rappelle que je ne suis pas encore à court de ressources. Je prends le cadre photo et je le retourne sur la moquette. Puis, je choisis le plus long des morceaux de verre et je le glisse précautionneusement dans la poche arrière de mon jean. J'entends alors des pas monter les marches. Je me place dos au mur, le plus loin possible de la porte. La clé tourne dans la serrure. Scott a mon sac à main et le lance à mes pieds. Dans l'autre main, il tient un papier.
« Mais c'est Madame Colombo !» dit-il avec un sourire.
Il prend une voix efféminée et lit à voix haute.
« Meghan s'est enfuie avec son amant, que j'appellerai A. »
Il a un rire moqueur.
« A lui a fait du mal. Scott lui a fait du mal. »
Il chiffonne le papier en boule et le jette par terre.
« Bon sang, t'es vraiment ridicule, tu sais. »
Il examine la pièce et aperçoit le vomi sur la moquette et le sang sur mon t-shirt.
« Mais putain, qu'est-ce que t'as fabriqué? Tu veux te foutre en l'air? Tu vas faire le boulot à ma place ?»
Il rit encore.
« Je devrais t'éclater la tête, mais tu sais quoi? Tu ne vaux pas la peine que je me fatigue. »
Il s'écarte.
« Fous le camp de chez moi !»
Je saisis mon sac et me jette sur la porte, mais au même moment, il fait mine de s'avancer pour me frapper et l'espace d'un instant, je crois qu'il va m'arrêter, m'attraper à nouveau. Il doit voir la terreur dans mes yeux, car il s'esclaffe. Il éclate d'un rire sonore. Je l'entends encore quand je claque la porte d'entrée derrière moi.